vous répondre, il y a très longtemps qu'il n'avait pas eu de nouvelles de Geneviève de Fontenay.
Non, je cherchais grosse chiennasse qui bouge plus, j'ai eu ta photo.
Et ça s'est arrêté là, voilà.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier,
c'est aussi la nuit sur RTL.
RTL, il est 4h.
Les grands moments des grosses têtes sur RTL.
La question concerne non pas le petit Grégory dont on continue à parler chaque jour dans les journaux, mais le grand Grégory qui faisait 1m93 et qui est mort noyé lui aussi. Mais de qui s'agit-il ?
Hein ?
Ah.
Un grand Grégory ?
Oui, un grand Grégory.
Un nageur.
Un nageur, non, il y a peu de nageurs qui meurent noyés, vous savez.
C'était... Mais justement, ça peut être le
généralement,
le
ceux qui meurent noyés, c'est qui savent pas.
C'est pas Grégory Peck.
En général,
Peck,
ceux qui meurent noyés, c'est les alpinistes, c'est connu.
C'est pas Grégory Peck.
Pour des cons, quoi.
Non, c'est pas Grégory Peck.
Moi, je fais de la montagne.
Non, mais ceux qui meurent noyés, c'est ceux qui savent pas nager, généralement,
ouais.
Vous voyez.
Oui. Ah non, parfois, tu peux être dans une tempête, dans la mer, le vent, le courant, machin. Excuse-moi, je ne suis pas
d'accord. Sur le bateau de Kersozo et de Filalo, tu te noies aussi en pleine mer.
Moi, je nais en pleine mer. C'est un truc comme ça, je te noies en pleine mer.
Il y a des requins tout là où tu
navigues. Il y a un steward, tu venant du Nord, j'en ai fait de la radio à Paris.
Mais qu'est-ce qu'il nous a mis, ce mec-là et tout?
Mais vous êtes en forme, en plus.
Ils t'ont greffé un truc dans la gueule ou quoi?
Ça va la canard.
Mais tu sais qu'il est juste comme ça à la radio quand il parle. Sinon, il est tout à fait normal.
Il exagère son accent.
C'est comme vous, tu peux parler, toi. C'est le camembert qui nous gruyère qui pue, hein.
C'est il exagère son accent.
C'est vrai que vous êtes un peu le cauchemar des orthophonistes.
T'inquiète pas, chérie, moi aussi j'exagère. On empire. Dites-moi. On fait pour faire notre intéressant.
Mon grand Grégory, là, 1m93 et il est mort noyé lui aussi.
C'est une statue, non ?
C'est pas une statue.
Bah, c'est pas Grégory Peck, c'est pas le bouquin de Melville, ça n'a rien à voir avec.
Non, 1m93.
Ouais. C'est pas le prénom du zouave de l'Alma durant les crues ?
Non, le zouave de l'Alma, c'est pas bête. Bravo, monsieur de Kersauzon, mais non.
Il existe vraiment. Il a vraiment existé, ce Grégory ?
Ah, il a vraiment existé.
Et la taille est importante ou pas ?
Ah bah écoutez, oui, parce qu'on sait
la
tous qu'il
était. La taille
est toujours importante. Il était très très grand.
Vous savez quoi comme
1m93.
Il était un sportif ?
Un sportif, non, mais...
Mais quoi ?
C'est un humain.
Très connu, en tout cas. D'ailleurs, il y a même une biographie qui sort sur lui. Cette semaine, je peux vous dire.
Il est mort en mer ?
Il n'est pas mort en mer, il est mort noyé. On l'a un peu poussé, pour
dans une
dire.
Flaque d'eau ?
Dans une flaque d'eau, non.
Il a été assassiné ?
Ah, il a été assassiné.
Ah oui, c'est Robert Boulin.
Non, pas Robert Boulin. Le petit Grégory Robert Boulin.
Ah ben Robert Boulin, il est mort noyé, théoriquement.
Oui, mais ça ne
dans
pas
les étangs près de Paris, il faisait 1m93.
C'est Grégory. Vrai, mais il s'appelait pas.
Alors, c'est pas valable, mon truc.
Il s'appelait pas Grégory.
C'est une histoire vraie.
Ah, c'est une histoire vraie.
Est-ce que le grand Grégory se parfumait aussi à l'eau de Vologne?
Oh. Vous avez vu ce dessin dans Charlie Hebdo, assez drôle, il faut bien dire, c'est un peu noir, évidemment, mais bon, ça fait 32 ans maintenant. Affaire Grégory, 32 ans qu'il nous nargue, et on voit le petit Grégory qui dit « Moi, je sais qui c'est, mais je vous le dirai pas. » Mais là, c'est le grand Grégory dont il s'agit.
Il est français.
Ah non, il n'était pas français.
Est-ce qu'on connaît
un Amerlock très riche ?
Évidemment, vous connaissez son nom et vous ne connaissiez pas son prénom. Vous ignoriez qu'il s'appelait Grégory. Voilà pourquoi je vous pose la question.
Il est mort noyé.
Et il est mort noyé.
Ah, je sais. Est-ce qu'on connaît celui qui l'a poussé ?
Je sais qui c'était.
Allez-y.
Il est mort noyé dans une cage.
Dans une cage, non.
Dans une boîte enfermée.
Non plus.
C'est pas un illusionniste là qui.
Ah, Houdin, Robert Houdin.
Oui.
Houdini, non. Houdini, ni l'un ni l'autre.
Est-ce qu'on connaissait la personne qui l'a poussé ?
Oui.
Ah, on imagine que ce sont des services secrets qui l'ont tué.
Ah bon ?
Ah oui, c'est Diesel alors.
Diesel, non. Ah oui, ça c'était à bord
Diesel
d'un bateau.
Diesel aussi a été noyé.
À bord d'un
en
bateau.
En Angleterre.
Exact.
Lorsque. Voilà, tu vois, tu connais quand même la noyée de France et de Navarre. Je peux te donner le nom des prochains. C'était au XXe siècle ?
Le 19 décembre 1916, pour tout vous dire.
Ah, c'est
pas ça. Ah, et c'est pas en Europe, c'est pas pendant la Première Guerre mondiale.
Pardon ?
C'est pendant la Première Guerre mondiale ?
C'est plutôt, oui, pendant la Première Guerre mondiale.
Ah oui, c'est pas
c'est 1916.
Oui, mais est-ce que c'est dans le cadre de la guerre ou est-ce que c'était genre aux États-Unis ?
C'est pas lié spécialement à la guerre, encore que les services secrets, c'est toujours un peu lié à la guerre.
C'est un Allemand.
Non, mais un groupe allemand, en revanche, qui a repris, on va dire, son nom pour en faire un succès.
Hindenburg ?
Non plus.
Ça commence par un S.
300 euros pour Delphine Durand, hein, au lieu de faire les malins, feriez mieux d'économiser un peu de l'argent pour la station, vous voyez. Oui. Je peux même vous donner la réponse en musique, puisqu'on a le groupe, évidemment, qui chantait.
Rasputin,
c'est Rasputin.
Eh oui, Rasputin.
Ah bah oui, évidemment.
Il s'appelait Grégory Rasputin et il est mort noyé. On l'a jeté à la flotte Rasputin. Son cadavre a été retrouvé au petit matin gelé et recouvert d'une épaisse couche de glace à la surface de la Neva. Vous voyez, l'album de photos de police exposé au musée d'histoire politique de la Russie de Saint-Pétersbourg révèle son visage défoncé par des coups et son corps transpercé de 3 balles tirées à bout portant. Et puis après ça, pour être sûr, évidemment, qu'il ne survive pas, on l'a foutu dans l'eau.
Voilà. Donc en fait, il n'est pas mort noyé.
Si tu mènes tes enquêtes comme ça, tu ne retrouveras jamais le petit Grégory. Non. Ça ne marche pas, il n'est pas mort noyé.
Mais pour moi, il était transpercé. Tout ça, c'est après qu'on a jeté un cadavre dans l'eau. Mais c'est... Non, la question nous a induit en erreur.
Bravo. C'est vrai qu'on va déposer un recours au tribunal administratif.
Jean-Phi nous représente bien.
On l'a quand même retrouvé dans la flotte au petit matin gelé. Et le petit Grégory, c'est pareil. On ne sait pas s'il est mort noyé, s'il n'a pas été tué avant. Voyez. Donc, même combat que ce soit le petit ou le grand Grégory.
Si, parce qu'ils ont bien vu qu'il était mort noyé quand ils ont fait l'autopsie.
Ils l'ont attaché.
Quand ils ont fait l'autopsie.
On a des doutes là-dessus.
Attaché, jeté dans l'eau.
Quand tu étais avec les grands-parents.
Bon, non, bah, écoutez, soyez contents pour Mme Durand qui a gagné 300 euros.
Non, c'est volé.
La station
n'est pas très riche.
On va pouvoir acheter un ventilateur avec la canicule.
La station n'est pas très riche depuis que vous êtes revenu, monsieur Castoron.
Les grands moments des grosses têtes sur RTL.
Si vous voyez quelqu'un avec une frôloche, qu'est-il en train de faire ?
J'ai bien une idée, mais ça va pas vous plaire.
Ibine ?
Ah non, Ibine, pas du tout.
Est-ce qu'il fait quelque chose avec la terre ?
Avec la terre, non.
Il cuisine ?
Non.
C'est français ou c'est québécois ?
Ah non, c'est français.
Il bâtit ?
C'est un outil dont on se sert souvent ?
Une frôloche. Alors écoutez, dont on se sert souvent. Là, je suis pas certain que vous en serviez, vous, beaucoup encore, chère Roselyne, et moi-même, je ne m'en sers plus, mais quand on était enfant...
C'est une toupie. Une tétine. C'est un jouet.
Pour certains, c'est un objet utilitaire et professionnel. Pour d'autres, c'est une passion. Et pour d'autres encore, comme nous, quand nous étions enfants, c'était pour jouer, oui.
Des cubes,
non.
Est-ce qu'on peut se gratter les freloches ?
Non.
Si je vais dans un magasin réclamer une freloche, on va m'en donner une ?
Oui, ça dépend quel magasin. Il faut un magasin spécialisé, tout de même.
Est-ce que c'est un magasin d'outils ?
D'outils, oui, plutôt, oui.
Ah, on trouve chez un quincailler ?
Chez un quincailler, oui, ça c'est pas mal.
Un marteau ?
Oui. Un marteau, non.
Chez le roi Merlin, je pense.
J'espère, ou en tout cas chez Jardiland.
Jouer avec les freloches.
Ah bah les enfants, ils aiment bien. C'est même mieux qu'ils aient une freloche parce qu'autrement ils font ça mal.
C'est
sexuel. Moi pour tout vous dire, j'avais pas de freloche.
Pas les moyens.
Pourquoi c'est cher? C'est cher une freloche.
Je sais pas si c'est cher, mais j'avais quelque chose qui remplaçait la freloche.
Est-ce que ça porte un autre nom la freloche?
Oh oui.
Ça s'achète en sachet?
Non, oui, pas du tout.
La belle-mère.
Comment ça, la belle-mère?
Non, c'est pas le truc là où on siffle dans les
La langue de belle-mère.
Tu faisais ça un an, toi.
Et vous dites que c'est un métier aussi?
Non, c'est pas un métier.
Mais ça sert dans un métier.
Mais il y a des passionnés qui en font, si ce n'est un métier, en tout cas
Passe-temps.
Un passe-temps mieux qu'un passe-temps, quasi une profession.
Les bonsaïs.
Des collectionneurs, par exemple.
De freloches.
Pas de freloches, mais ils se servent d'une freloche.
C'est eux qui font leur collection, donc, puisqu'ils ont une freloche.
Absolument.
Bien sûr, donc on construit quelque chose.
C'est un pot de colle.
Pardon ?
Un pot de colle.
Un pot de colle, non.
À l'école, on s'en sert ?
Non, pas à l'école.
C'est un rapport
avec
les insectes.
Parce qu'on sait qu'il n'avait pas beaucoup de moyens quand il était petit, mais j'espère que vous aviez un pot de colle. Vous n'étiez pas obligé de le faire avec du miel.
Oui, elle s'appelait Christine Bravo, les frères.
Alors, c'est quelque chose qui sert à faire utile dans une collection.
Pas dans une collection, pour faire votre
un
collection.
Album, timbre, un album,
herbier.
Un herbier, non, mais on se rapproche.
Collection de timbres.
Un capotier.
Non plus.
Non.
Ah oui, c'est un truc avec des allumettes.
Ah non.
C'est une collection de photos,
c'est un
album
livre de
photos.
Quelque chose.
Des collections d'insectes.
Ah, on se rapproche.
Ah, sur les bouchons sur lesquels on met les papillons.
Ça a rapport avec Pif Gadget.
Pas du tout.
C'est des vitrines pour
donc c'est des insectes, des abeilles.
Non, mais là, il s'agit pas de trouver la collection. Il s'agit de ce que c'est qu'une freloche.
Oui, mais si on trouve la collection,
c'est
on
pour piquer les papillons. C'est l'épingle pour piquer
non,
les.
Non, mais on
le filet à papillons.
C'est le filet à papillons. Une freloche, c'est un filet à papillons.
Ah, ça.
Quelqu'un l'a trouvé.
Eh oui, bah oui, oui.
Et vous n'en aviez pas, Laurent.
Non, moi je faisais ça avec un morceau de carton, alors ça écrasait le papillon, c'était un peu triste, vous voyez.
Jolie fleur de pas.
Mais il n'y a plus de papillon maintenant.
Jolie fleur de papillon.
Pas beaucoup, non.
Attendez, Mme Bachelot se lance dans une chanson.
Oh non, non, non.
Non, là, dégage.
Une chanson de. Une chanson d'Annie Cordy, si ma mémoire est bonne.
Jolie fleur de papillon, peut-être.
Ah oui, je vous le confirme.
Ah ouais,
jolie
bon,
fleur
bah,
de
bien.
Pas jolie fleur de papillon. Vous voyez, on peut faire un duo, Madame Bachelot.
C'est pas Jean Constantin.
Pardon.
C'était pas Jean Constantin.
Peut-être pantoufles.
Peut-être que Jean Constantin l'a chanté, mais je peux vous jurer qu'Annie.
Ah mais sûrement.
Vous voulez que je vous trouve la version d'Annie Cordy?
Oui.
Ah oui. Trouvez-nous Annie Cordy déjà.
Non parce que vous me contredisez là, Monsieur Mabie.
Non. Annie Cordy l'a chanté plusieurs fois. Plusieurs fois.
Je peux vous dire même que ça a été un de ses premiers grands succès, Monsieur Mabie.
Ah oui, oui, oui. On s'en souvient tous très bien. C'est pas la peine de le remettre.
Bah c'est pas...
Qu'est-ce qu'on attend là, Laurent? Que Annie Cordy enregistre la fleur de papillon?
Pas besoin, monsieur Madi.
La fleur de papillon, si tu le vois dans le papillon, comme il n'y a pas...
Eh ben, croyez-moi, Bernard Mabi, le jour où je trouve une freloche assez grande, vous ne ressortirez pas vivant de ce studio. Dans ce documentaire, vous verrez monsieur et madame Lauré, Philippe et Elisabeth, qui sont frères et sœurs, découvrir devant les caméras de télévision, pour ce documentaire, découvrir le résultat de quoi ?
D'un examen sanguin ?
Un test ADN, oui.
Un test ADN ?
Un test ADN.
Sur quelqu'un de leur famille ?
Sur quelqu'un de leur famille.
De très connu ?
De très connu.
Test de paternité ?
Alors non, c'est-à-dire que c'est un test qui les concerne, voilà. Eux, évidemment, pour vérifier quelque chose.
Les Romanov ?
Les Romanov, non.
Ils sont frères et sœurs et ils le savent pas.
Non, ils sont frères et sœurs.
Ah
et
bon.
Ils le savent.
Mais ils seraient fils et filles de quelqu'un de connu.
Alors, petit-fils et petite-fille.
Ah, français,
d'un grand écrivain.
D'un grand écrivain, non.
De roi de France.
De roi de France.
De roi de France, non.
D'un acteur connu.
D'un acteur connu, non.
C'est un acteur,
d'un sculpteur, d'un peintre.
D'un peintre, non.
D'un chanteur.
Philippe et Elisabeth Lauré seraient les petits-enfants de...
C'est d'un mort, on parle d'un mort.
Oui.
Qui est mort.
Oui.
Enfin, qui est mort au siècle dernier.
Qui est mort au siècle, bah, au siècle dernier.
C'est pas Hitler, quand même.
Hitler, bonne réponse de Christine Bravo. En effet.
Ils ont vraiment envie de savoir.
Ah bah, c'est ça que c'est.
Bah, la fille aurait savoir pourquoi elle a une moustache et une mèche, quoi.
Ça.
On les voit, là, Philippe et Elisabeth Lauré, qui se sont soumis à un test ADN dans le cadre de ce documentaire signé Élodie de Sélis, le destin hors du commun de cette famille française dont l'histoire percute le parcours d'Adolphe Hitler. C'est réalisé comme un suspense, puisque c'est dans le documentaire que va être dévoilée la réponse, puisque leur père, Philippe et Elisabeth Lauré, serait, on l'a souvent dit, Jean-Marie Lauré, c'était son nom, Jean-Marie Lauré serait le fils d'Hitler, né en mars 1918, né d'une liaison, évidemment, de sa mère avec Hitler, lorsqu'il serait passé du côté de Lille à Fournes-en-Vep, très exactement. On avait déjà parlé de cette histoire il y a quelques années, mais jamais, au fond, jamais de test ADN n'avait été effectué. Et là, effectivement, devant les caméras de télévision, les éventuels petits-enfants français de Hitler vont vérifier devant les caméras.
Courageux,
si...
hein.
Ah, ouais. C'est courageux.
Courageux.
Dans les laboratoires vont s'apercevoir qu'ils ont les mêmes croix gamètes.
Où est-ce qu'ils sont allés chercher l'ADN d'Hitler? Ils ont...
Alors ça, c'est intéressant.
Ça, c'est, oui, une bonne question.
Alors,
oui.
Alors c'est intéressant. Là, je vais exactement vous expliquer comment ça s'est passé pour démêler le vrai du faux. Donc d'abord, il faut savoir que c'est un spécialiste du Troisième Reich qui dit c'est faux d'expliquer qu'Hitler, parce qu'on l'a longtemps dit, aurait été impuissant et qu'il n'aurait jamais pu avoir d'enfant parce que un rapport soviétique a affirmé dans les années 60 n'avoir trouvé qu'un testicule sur le cadavre de Hitler. Oui. Vous saviez pas ça?
Non, je savais pas qu'il était monocouille.
Ah, si. Il a même déclaré, il y a une couille, les alliés arrivent.
Ah, c'est comme ça chez tous les descendants. Ou un œil ou une couille.
Par contre, il était...
bien.
Face à l'absence de certitude, donc, seuls des tests ADN pouvaient faire savoir à Elisabeth et Philippe Loré s'ils étaient oui ou non les petits-enfants d'Hitler. Ils vont donc découvrir le résultat grâce à des tests qui ont été faits sur des cousins éloignés d'Hitler.
Ah oui, c'est ça.
Ah bah oui, oui. Bah, oui.
Allô, bonjour, c'est sûrement pour un test ADN. Oui.
Ce sont sûrement des cousins germains. Moi, je vais me faire faire des tests ADN. Si ça se trouve, je suis un arrière petit-fils de Jeanne d'Arc.
Allez savoir.
Mais toi, tu vas flamber si on te brûle. Hein.
Dans un instant, les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL.
C'était le début des années 20, le début de la fin sûrement. Toi, tu courais toujours en vain. Ouais, tu aimais gagner ton temps. Dans les trop tard de tes 30 ans, ouais, tu étais déjà sous l'eau. Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être. Tu te lavais dans les fêtes entre bureau et tristesse. C'était peut-être ça la vie, t'en étais persuadé aussi. Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres qu'il existait l'amour, un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse. Finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour rattraper le temps qui presse. Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça, à faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste. Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse. Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut. Que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse.
Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love. Un peu de love. Un peu de love et de tendresse. Un peu de love et de tendresse. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier.
Oh, tiens, une question pour Monsieur Junio, parce que je sais qu'il connaît très très bien le cinéma, et j'aimerais qu'il retrouve
qui est Michel Blanc.
Le nom de cette actrice dont la dernière apparition fut dans 747 en péril. Vous savez, c'est ce film catastrophe,
oui.
747.
Sandra Bullock, non?
Bette Davis.
En péril, non, pas... Comment vous avez dit?
Sandra Bullock.
Non.
Bullock. Ah non, c'est l'actrice de...
Sandra
actrice de
Bullock était dans Marée Basse, qu'elle était... n'a rien à voir.
Sandra Bullock.
Bullock, pas Bullock.
Sandra Bullock.
Ah bah, une tête de Bullock en même temps. Hein. Quand avec, tu rates bien, sans les effets spéciaux.
Avec Alain Belon et Annie Gillardot. ouais. Oh non, franchement. Alors, oui,
en même temps, ils étaient bien sur un plateau.
Oh non.
Oh, les jeux de mots.
Vol 747 en péril.
Ah oui, mais c'est américain.
C'est la dernière fois qu'on la voit dans ce film.
Bette Davis.
Elle est plus toute jeune, là, autant vous dire, à ce moment-là.
Ah oui.
Parce qu'elle a été une star du muet.
Ah, Chlorine Tuesday.
Non.
Gloria Swanson.
Et c'est Gloria Swanson. Ah. Bonne réponse d'Olivier Bellamy.
Elle est bien.
Boulevard du Crépuscule.
Ah, si, si. Corinne Pouzel jouait bien en muet. Hein. Le problème, c'est quand elle parlait, c'est le problème.
Effectivement, Gloria Swanson, c'était une star du muet. Wow. Mais pourquoi vous ne voyez que Partouzé?
Il est fort.
Je reviens à Gloria Swanson.
Non, restons sur Partouzé.
C'est une actrice, une grande actrice du muet.
Elle.
Et tout le monde l'a vu dans Sunset Boulevard.
Oui. Voilà.
Avec William Holden, Eric von Stroheim.
Mais c'est bon, t'as bien répondu, n'en rajoute pas. Non, le feuillet ou l'autre. Et je savais aussi que...
Billy Wilder.
Mais non, mais il a raison, parce que Sunset Boulevard, en français, si vous préférez Boulevard du Crépuscule, c'est quasi son histoire, en fait.
Exactement.
Puisque c'est l'histoire d'une actrice qui se meurt du passage du muet. Au cinéma parlant.
C'est comme Danny Boone avec les chenilles.
Je me demande s'il n'y a pas Buster Keaton dedans.
Et en tout cas, dans Boulevard du Crépuscule, elle est formidable, Gloria Swanson, mais ce n'est pas son dernier rôle. Elle va jouer. Alors là, j'imagine que si quand même ça dure longtemps, le film Catastrophe, on doit la voir quand même un moment, parce qu'elle doit faire partie des passagers du vol 747.
Elle joue la mouette que se prend l'avion. et c'était très court.
Moi, je me souviens de ce film.
Mais elle n'est pas coincée dans les toilettes?
Pourquoi elle serait coincée dans les toilettes?
On la verrait moins comme ça. De l'intérieur.
On la verrait moins.
Non, vous confondez avec l'actrice un peu grosse là qui jouait dans elle dans les
Divine. Divine.
L'aventure du Poséidon.
Ah,
il y a aussi l'aventure.
Oh là là, Cathy Bates. Cathy Bates, tu veux dire extraordinaire comédienne.
Ah, d'accord.
Ah, Caroline Diamant.
C'est pas Cathy Bates.
Ah, qui était jeune. Shirley Winter. Ophélie Winters.
C'était une époque où dès qu'il y avait un film catastrophe, on y allait. C'était bien avant Titanic.
Oh, moi, je me souviens, je l'avais vu au cinéma.
On allait voir ça, les aventures du Poséidon.
Il y avait même
des trucs comme
la tour infernale.
Les choristes.
Et Tremble.
Quelle catastrophe. C'est vraiment un film catastrophe. Hein. Bon, c'est mieux que Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'est l'enfer. Hein.
Et long.
Alors, non, moi, quand j'ai vu Les Choristes.
Arrête. Pas toi, Gérard, arrête.
Mais ta gueule.
Gérard, t'es un génie, t'as fait des trucs géniaux, me parle pas des choristes, arrête.
Les choristes, c'est super, les choristes. Ah non, c'est pas celle-là, les choristes.
Voilà comment j'en
ai. Allez-y, patron, enchaînez.
Il en peut plus.
Oh, non, mais moi, je me barre, qu'est-ce que vous
dites. C'est tellement drôle.
Mais là, pour ça, ça me fait pas rire, monsieur.
Après les films, les émissions catastrophes, avec Toen. Un peu ça, quand même.
Enfin, et ça m'étonne que vous n'avez pas, qu'on fête pas aujourd'hui. C'est la journée mondiale du théâtre aujourd'hui.
C'est pas vrai.
C'est
à lundi.
Donc dans le.
Quelle bonne idée.
Ça vient du 27 mars. C'est la journée mondiale du théâtre. Voilà.
Non, mais j'ai choisi d'autres sujets.
Oui.
Et je voulais rendre hommage justement juste avant les infos de 17h à une ex.
Dépêchez-vous.
Une ex.
Mais il est déjà 54.
À une ex grosse tête. Quelqu'un. Ah. C'est peut-être même la grosse tête qui a fait le plus de grosses têtes, pour tout vous dire, parce que il est resté grosse tête pendant 20 ans. De 1977, c'est-à-dire la première année des grosses têtes, jusqu'en 97, donc 20 ans de grosses têtes. Et puis, il est mort il y a 20 ans pile, le 27 mars 2003. Et il fut grosse tête pendant 20 ans. Il fut aussi Henri d'Anjou dans La Reine Margot, aux côtés de Jeanne Moreau. Peut-être que Jeanne Moreau s'en souvient de La Reine Margot.
Oui, absolument, Laurent. C'était merveilleux de tourner ce film avec Isabelle.
Bien, il joua Henri d'Anjou dans La Reine Margot. Oui. Il était aussi l'arnaqueur dans Pouic Pouic.
Castelli.
Non, pas Philippe Castelli. En revanche, il a joué, justement, c'est drôle que vous disiez
c'est
ça.
C'est Secaldi.
Et c'est Daniel Secaldi.
Ah oui.
Excellente réponse de Liane Folli.
Il y a Castagnier aussi dans Pouic Pouic.
Je le vois pas.
Castagnier.
Dans Pouic Pouic de Jean Giraud.
Castagnier. Quand il hurle.
Et dans la
Castagnier.
Reine.
Castagnier.
Et dans la Reine
Castagnier.
Margot.
Hey Gérard, tu te rappelles? Castagnier. Castagnier.
Et dans la Reine Margot.
Hey Gérard, tu te rappelles? Non mais l'Alzheimer, faut lui rappeler. Castagnier.
Dans la Reine Margot, c'est pas la dernière Reine Margot avec Adjani. Je vous parle de la Reine Margot des années 50.
Ah oui, au théâtre ce soir.
Voilà. Non, pas au théâtre ce soir. Un film.
Castagnier.
Oh, mais faites le taire.
Gérard, quel Castagnier, tu te rappelles?
Laurent, c'est le Pouic Pouic avec Maillan.
Oui, avec
oui, de Castagnier. Funès.
Maillan de Funès.
Oui. Mais pourquoi je le vois pas?
Dit Castagnier.
Si. Il faisait quel rôle, c'est
Castagnier? Castagni.
Putain, te dit
Castagnier.
C'est pas Castagnier, les boléros.
castagnettes. Voilà.
C'est là où il achetait des actions des trucs pétroliers.
J'en sais rien, moi, ce qu'il faisait.
Mais c'est pas...
Il y avait le
Il arrivait dans l'hangar, il disait... Il avait... Castagnettes.
Voilà. Mais non, ça, c'est dans le petit beignet.
Ben, alors, c'est pas...
En tout cas, il avait un charme fou, Daniel Sécaldi. On l'adorait.
Et il a fait les grosses têtes 20 ans, Daniel Sécaldi. C'est un de ceux qui a fait le plus les grosses têtes auprès de Philippe Bouvard pendant des années, Daniel Sécaldi. Il a joué dans Baiser volé de François Truffaut, dans Domicile conjugal de Truffaut, dans Les oiseaux, évidemment. Il a joué beaucoup dans les films de Pascal Thomas. Et il était aussi Louis XIII dans Les quatre Charlots mousquetaires, Le chaud lapin aussi de Pascal Thomas, et peut-être un des rôles les plus marquants aussi, L'hôtel de la plage.
L'hôtel de la plage, j'adore.
C'est génial.
Absolument.
L'hôtel de la plage.
Et dans Le téléphone rose avec Pierre Mondy.
Exact, aussi. Le téléphone rose.
C'est Jean-Pierre Mocky, non?
C'est un acteur. Non, pas du tout.
Arrête de dire.
C'est Maud Laroche, je crois.
Reste sur Richard Clayderman, toi.
Non, et un feuilleton aussi pour les plus anciens.
Ah oui.
Vive la vie dans les années 60.
Oui.
Vive la vie, voilà pour.
Avec Claire Morier.
Exactement. Pour Daniel Sécaldi, hommage à quelqu'un qui fut une
formidable. Quand il a fait Chewbacca dans Star Wars, il est incroyable.
Non, mais il fut une formidable grosse tête.
Il avait beaucoup de charme.
Daniel Sécaldi. C'était la grosse tête liante. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est une sorte de rouage dans une émission. Pas quelqu'un qui parle tout le temps.
Oui.
Quelqu'un qui ferait Castagnier. C'était pas son
dans
genre.
Dans le petit baigneur, c'est en fait, pardon, Gérard, Castagnier. C'est dans le petit baigneur, c'est pas dans le
Robert Derry, c'est moi qui te l'ai dit.
Comment il s'appelle?
Bah, Berry.
Castagnier.
C'était pas son genre à faire des trucs comme...
Non, pas du tout. Un garçon qui avait une finesse, une délicatesse. Oui.
Il tirait pas la couverture à lui.
Il tirait pas la couverture, grosse culture.
Il a mis en scène aussi des films.
Et un film, il a réalisé un film au cinéma, un ou deux pour la télévision. Voilà, hommage à Daniel Sécaldi qui nous a quittés pile il y a 20 ans et qui fut grosse tête pendant des années et des années.
RTL. Les grands moments des grosses têtes.
Une citation pour Aymeric Ruault, qui habite Beaucouzé, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Une femme qui n'est pas sincère ressemble rudement à une femme qui l'est vraiment.
» Ça, c'est un français.
C'est français.
C'est Sacha Guitry.
C'est misogyne et très français, évidemment, mais ce n'est pas Sacha Guitry.
Il est mort.
Ah, il est mort en 1947.
Académicien français.
Dramaturge, romancier. Était-il académicien français? J'ai un petit doute là-dessus, mais je le crois.
Dramaturge.
Non, je crois pas. Il était en tout cas... Non, mais si je dis ça, vous allez me donner son nom tout de suite.
Alphonse Allais.
Courteline.
Non, il était en tout cas verbicruciste.
Tristan Bernard.
Tristan Bernard. Bonne réponse collective. Je vais prendre une citation plus facile pour la question suivante et pour Valérie Le Cire qui habite La Roche-sur-Yon en Vendée, qui a dit « L'amour est un châtiment... Nous sommes punis de ne pas avoir pu rester seuls. »
Oula.
Quelqu'un d'optimiste.
Alors, c'est quelqu'un qui n'était pas d'origine française, mais on va dire qui, quand même, est rentré à l'Académie française.
Et c'est une femme.
C'est une femme.
Yourcenar.
Marguerite Yourcenar. Bonne réponse de Valérie Mérès et Jean-Jacques Perroni.
Je tiens à dire que je fais partie du collectif, ce coup-là.
Ah, vous aussi?
Oui, s'il vous plaît.
Vous avez dit Yourcenar.
Pour passer la visite de la
vidéo. Elle était née à Bruxelles.
Elle était la seule, donc c'est pas dur.
Oui, à l'époque, c'est vrai que ça a été la première académicienne française. Et elle est, moi,
et les toilettes, d'ailleurs, l'Académie française, il y avait Homme et Marguerite Yourcenar.
Exactement. Une autre citation, et là, il s'agit de quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Oh. Ce sera pour Marie-Noël Geoffroy, qui habite Richemont, en Seine-Maritime, qui a dit « Le jour où j'ai découvert le sens de la vie, ils l'ont changé. »
Français,
c'est récent.
C'est américain.
Américain. Ah oui.
Et c'est récent quand même.
Alors, c'est du contemporain.
Oui. Stephen Wright.
C'est même quelqu'un qui est mort en 2008, qu'on n'a jamais cité. Un américain qu'on n'a jamais cité.
Quelqu'un qui faisait du stand-up.
Alors, quelqu'un qui faisait du stand-up, ça c'est vrai. Il est dans la lignée de Lenny Bruce, voyez-vous, et c'est une référence.
Georges Carlin.
Pardon.
Georges Carlin.
Oh, comment vous alors là, je ne pensais pas que vous connaissiez ce nom-là. Répétez-le.
Georges Carlin.
Georges Carlin. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoine. Alors là...
Ah, c'est un des grands maîtres du stand-up américain.
C'est vrai?
Ah oui, c'est une référence pour beaucoup de gens. Ouais.
Ça fait des mois et des mois que je me traîne cette citation. Jamais, jamais ils vont le trouver, celui-là.
Alors, deux secondes, il vous a aplati.
Alors, parce que moi, je le connaissais pas, George Carlin.
Puis ah, quand même, si,
j'aimais, j'aimais bien la phrase, voyez-vous. Le jour où j'ai découvert le sens de la vie, ils l'ont changé. George Carlin, qui est mort en Californie à 71 ans. Il paraît qu'il... Alors, il jouait ou il écrivait des scénars aussi?
Oui, oui, je me demande s'il a pas écrit aussi pour des late shows, mais il a commencé sa carrière, je crois, au début des années 60 et ou fin des années 50. Et c'était les premiers, les précurseurs du stand-up.
George Carlin. Vous retiendrez le nom, monsieur?
George Carlin.
Dites, vous en avez appris des noms aujourd'hui, vous.
Ah, hein. Oui, oui, plein, plein.
C'est facile à retenir la carlingue.
C'est bien.
De l'avion.
Voilà. Hein? Bon. Avec ceci, vous fallait autre chose.
Allez, une dernière citation pour Marie Brenne, qui habite Blainville-sur-Orne, dans le Calvados, qui a dit « L'homme a reçu de la nature une clé avec laquelle il remonte sa femme toutes les 24 heures.
Oh, 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 génial. Français.
Alors ça, c'est très français, oui.
Ah oui.
C'est mort.
Oh, c'est très mort aussi.
C'est Sacha Guitry.
Et ce n'est pas Sacha Guitry. C'est bien avant Sacha Guitry.
Alors, c'est 19e siècle.
Alors, c'est du 19e, on peut pas plus 19e, comme je dis toujours.
Romancier.
Romancier, dramaturge, poète.
Alexandre Dumas.
Dessinateur.
Victor Hugo.
Et c'est Victor Hugo. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Retrouvez les grosses têtes de Laurent Ruquier tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL et sur RTL.fr. Bonne journée sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
4h30, 7h. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
Bonjour à tous, on est là, on est... pas tout à fait prêt, mais on,
mais si. Si, si, si.
On a 2h30 pour se préparer et être, et être parfait. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour à toute l'équipe. Marina,
vous allez bien ? Bonjour Jérôme, oui, impeccable. Et vous ?
Très très bien, passez un bon week-end.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Un mariage.
C'est vrai ? Le vôtre ?
C'était le mariage de votre frère ce week-end ?
Oui, oui.
Ah, ça s'est bien passé.
J'étais témoin.
Il a dit oui ?
J'ai tout vu. Oui, il a dit oui. Il a dit bon. Oui. Et ils s'en vont aujourd'hui au soleil, donc...
Ah, ils vont.
Ils ont bien raison.
Allez...
En Floride.
C'est vrai, hein, c'est voilà. Cool. Ah oui. On leur souhaite un bon voyage.
Parce que là, vu le temps qu'il fait, Marina...
Hein, oui, mais on va vers le mieux.
Ah, on va vers le mieux.
Ouais.
Vous êtes sûr?
Bah...
Ah, il y a une hésitation.
Non, mais ça reste de la météo. Mais bon, pour l'instant, l'indice de confiance est de 4 sur 5.
D'accord, ouais. C'est pas mal.
Mais on y va progressivement, attention. Hein, on
très,
fait
très progressivement. Voilà. Bonjour Tom.
Bonjour les amis. Moi aussi, j'ai passé un bon week-end, vu que vous me demandez.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, moi, figurez-vous que j'ai fait du binge-watching. Vous savez ce que c'est?
Oui, 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 vous avez regardé des séries.
Voilà, exactement. J'ai regardé et je vais vous en conseiller une, c'est Fiasco. Alors, vous allez beaucoup en entendre parler ces prochains jours. C'est avec Pierre Niney. Y a un énorme casting. Il y a François Civil, Géraldine Nakache. C'est très drôle, très décalé. Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, comme moi, bah, n'hésitez pas à regarder.
C'est sur quoi? Sur Netflix?
C'est sur Netflix, d'accord. Absolument.
Fiasco. Ouais. Conseil de Tom. En régie, nous avons Hervé, nous avons Nolan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme, bonjour, bonjour à tous.
Le week-end a été bon.
Excellent.
Hein?
Sous la pluie.
Sous la pluie. Et oui. Mais bon, ça va s'arranger.
Oui, oui, oui.
Voilà. Disait Marina. Allez, c'est parti pour 2h30 d'infos avec notamment le mouvement étudiant pro-Gaza qui s'étend aujourd'hui au lycée. En tout cas, il y a un appel au blocus. À quoi faut-il s'attendre? On posera la question à notre invité à 6h15, Gwen Thomas Alves. Il est président et porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Et puis, ne ratez pas RTL événement dans 3/4 d'heure. L'enquête de la rédaction avec le témoignage de Cathy, surnommée le baiser de la mort. C'est une ancienne gardienne de prison, jugée aujourd'hui pour complicité de crimes avec la mafia. Elle aurait désigné, en l'embrassant, la cible d'un règlement de compte entre mafieux. C'était à l'aéroport de Bastia Poretta en 2017. Incroyable histoire, incroyable histoire corse qu'on vous racontera dans RTL événement à 5h15. Au programme également, ce que vous avez peut-être raté, ben on vous le raconte, on vous en parle, Tom, ce matin.
Oh là 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 là, ça se trouve vous en avez au programme aujourd'hui, les réunions, il y a trop de réunions, on les multiplie.
Ah oui.
On les multiplie chaque jour. Figurez-vous que 3/4 des réunions pourraient être évitées et remplacées par un simple mail.
C'est le truc bien dans nos horaires, c'est qu'il n'y a pas de réunion forcément à 4h du matin.
À 4h du matin, il n'y en a pas. Parfois, il y en a en journée, il faut revenir, voilà, il faut se brancher. Mais,
oui, mais nous, on adore les réunions parce que voilà, les patrons sont super, les réunions sont tellement intéressantes.
Tom veut être augmenté en ce moment, donc il en fait beaucoup. Donc si vous entendez Tom qui en fait des tonnes.
Hein, voilà, vous avez compris.
C'est des tonnes Lefèvre en ce moment. 6h moins quart, vos experts santé et conso avec Aline Perraudin qui nous dira qu'on soigne mieux la pelade. On sait mieux aussi comment elle se déclenche, très utile. Et puis Olivier Dauvert, lui, nous dira pourquoi on met des graines à toutes les sauces. Eh bien, est-ce que ce n'est pas juste pour faire gonfler les prix? Ça se pourrait bien. 6h moins quart. Pour nous joindre, 32,10, 50 centimes la minute, 64,900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Vous avez aussi le groupe Facebook de l'émission et vous avez aussi les mails à rtlpetitmatin@rtl.fr. Nous sommes le lundi 6 mai. Voici les titres sur RTL.
RTL Matin.
Le trafic de drogue fait 3 morts en 2 jours à Sevran, en Seine-Saint-Denis. 2 hommes de 31 et 35 ans ont été tués hier en pleine rue vers 18h dans le quartier de Mons-le-Pont-Blanc, non loin du lieu où avait éclaté une autre fusillade la veille et où un homme de 28 ans avait perdu la vie. La reconstitution de la mort de Naël à Nanterre s'est terminée à 22h. Hier soir, elle avait commencé dans la matinée. Le garçon de 17 ans avait été tué le 27 juin dernier par un tir policier lors d'un contrôle routier. L'avocat de la famille de Naël sera l'invité ce matin de RTL à partir de 7h40. Xi Jinping est en France. Le président chinois a atterri hier après-midi à Orly. Il sera reçu tout à l'heure à l'Elysée par Emmanuel Macron pour célébrer les 60 ans de la relation diplomatique entre les deux pays. Il a déjà dit, Xi Jinping, vouloir, je cite, « œuvrer avec la France et toute la communauté internationale à résoudre la crise en Ukraine ». Des frappes israéliennes ont fait 16 morts hier soir à Rafah, 16 morts issus de deux familles d'après des sources hospitalières. L'armée israélienne affirme, elle, que 3 de ses soldats ont été tués. Les discussions sur un éventuel projet de trêve se poursuivent aujourd'hui. 4 Français sur 10 ne partiront pas en vacances cet été, 40%, c'est 3 points de plus que l'an dernier. D'après un sondage Opinionway que vous révèle ce matin RTL, c'est la première fois en 4 ans que ce chiffre augmente. En rugby, le Stade Toulousain s'impose face aux Anglais des Harlequins 38-26 et se qualifie ainsi pour sa 8e finale de Champions Cup. Toulouse affrontera son meilleur ennemi, Leinster, le 25 mai à Londres. Et puis en football, en match en retard de la 32e journée, Lille, 4e de Ligue 1, reçoit Lyon, 8e ce soir. Match en jeu, hein, puisque le LOSC espère grimper sur le podium à la place de Brest. Et Lyon vise une place qualificative pour la Ligue des Champions.
RTL Matin.
Marina, on va progressivement vers le mieux, ça veut dire que ce lundi reste pourri.
Oui, exactement. Aujourd'hui, franchement, on va dire que c'est la pire journée de la semaine parce qu'on a une perturbation là qui est en train de traverser le pays. Elle s'étend sur le nord-est en allant vers le massif central et les Pyrénées. Et puis, elle va se décaler vers l'est. Il y a une nouvelle qui arrive, perturbation pluvieuse et orageuse qui arrive par l'Atlantique. Donc tout ça va se confondre et va donner un temps nuageux, pluvieux, voire orageux, encore des orages aujourd'hui. Et puis de la neige hein, sur les Pyrénées et le nord des Alpes, bon, même le sud des Alpes d'ailleurs cet après-midi, au-dessus de 2000 mètres, mais voilà, encore de la neige. Il y a une région qui va échapper à tout ça, ça va être la Corse où ce sera un temps sec. Alors, assez agréable ce matin côté ciel. Dans l'après-midi, ce sera bien voilé. Mais comme les températures seront extrêmement douces en Corse, ce ne sera pas désagréable comme impression. Mais sinon, partout ailleurs, franchement, c'est un temps bien agité que l'on aura.
Avec des températures
Voilà quoi, hein, d'accord, pour la saison. 15 à 19, c'est assez homogène d'ailleurs sur le pays. Un petit peu plus, je vous disais, en Méditerranée et notamment en Corse, 25 à Ajaccio, 21 à Bastia, 19 à Paris, 19 à Nice, 18 à Strasbourg et à Grenoble. Alors, à part le nord-nord-ouest, ça va être en forte baisse partout ailleurs, donc sur l'est et le sud-ouest. On aura 18 à Agen, hier il faisait 25 degrés. On aura 18 à Montauban, il en faisait 5 degrés de plus hier, 17 à Lille, 17 à Limoges et Clermont-Ferrand qui perd 6 degrés. On aura 16 au Mans, 16 à Tarbes qui perd 8 degrés, faisait 24 hier, donc 16 cet après-midi, 16 à Metz et à Nancy, 15 à Brest et à Nantes, ainsi qu'à Besançon, puis un petit 13 à Aurillac.
Merci Marina. Notre question du jour. Est-ce que vous êtes encore attaché au ticket de caisse papier? Vous dites oui à 72%, vous dites non à 26%. Vous votez sur RTL.fr et l'appli RTL et on vous attend évidemment au 3210. On vous pose la question parce qu'il y a une étude étonnante, enfin intéressante en tout cas, qui est sortie juste avant le week-end et qui montre que ces petits papiers censés disparaître font encore de la résistance, notamment dans les hypermarchés où une majorité de clients demandent toujours un ticket de caisse. Depuis août dernier, pourtant, l'impression n'est plus automatique. Elle est à la demande du client pour des raisons écologiques notamment. Et donc les clients gens dans les hypermarchés demandent, pour la plupart d'entre eux en tout cas, toujours la version papier de ce ticket de caisse. Et vous, est-ce que vous demandez toujours ce ticket papier? N'hésitez pas à témoigner et à nous dire pourquoi, surtout au 3210. On démarre la journée avec Call Me. Ah non, pardon. Atomic City, U2 sur RTL. Très bon début de journée.
RTL Matin
avec Jérôme Florin.
Sur RTL.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Ça va beaucoup mieux tous les jours avec Jimmy et Mohamed, juste après 8h30 dans la matinale d'Amandine Bégaud et Yves Calvi. Vendredi, c'était une journée spéciale consacrée aux maladies chroniques hein, sur votre radio préférée. Et notre médecin nous en a profité pour nous parler d'une maladie très fréquente dans notre pays, l'hypertension artérielle.
Hypertension artérielle qui correspond tout simplement à une pression trop élevée dans les tuyaux que sont vos vaisseaux sanguins. Le problème avec l'hypertension, c'est que malheureusement, c'est un tueur silencieux. On peut avoir une pression artérielle trop élevée pendant des années sans jamais s'en rendre compte jusqu'au jour où on fait une complication comme un infarctus ou un accident vasculaire cérébral.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle avoir une bonne tension artérielle?
Une bonne tension artérielle, c'est tout simplement une tension qui est la plus basse possible. Très souvent, les patients que je vais voir pensent que leur coup de fatigue est lié à une baisse de tension artérielle. Or, une tension qui est basse, eh bien, elle n'est pas néfaste pour votre cœur ni pour votre organisme, mais au contraire, elle est bénéfique. Pour répondre à votre question, Amandine, une tension artérielle normale, c'est une tension qui est inférieure à 13,5, 8,5, lorsque vous la prenez à la maison, au calme et au repos.
Alors, en deux temps, comment faire pour avoir une bonne tension et l'hypertension n'est-elle pas finalement héréditaire ?
Vous avez raison Yves, il y a une très forte composante héréditaire à l'hypertension artérielle, mais des gestes simples du quotidien peuvent contribuer à baisser votre tension. Soyez vigilant sur la consommation de sel, car le sel entraîne une rétention d'eau qui augmentera votre tension. Partez donc à la chasse, non pas au sel de table, mais au sel caché dans les produits alimentaires.
Jimmy Mohamed, tous les matins sur RTL.
RTL Matin, le premier coup de fil du jour.
Petit indice musical. Où alors va-t-on, dans quel pays ? Question Tom.
Je sais pas, en...
C'est quel
en
groupe Chine, ça déjà ?
Bah...
In Excess, un groupe des années 80, ouais, 90.
Vous connaissez
un groupe
chanson,
je connais la chanson, mais...
Australien.
Ah, d'accord, voilà. Donc on va en Australie.
Exactement.
Tout à fait, bonjour Rémi.
Bonjour à vous.
Bonjour Rémi. Bonjour.
Bon, c'est grand l'Australie, vous êtes où exactement ?
Alors, je me trouve sur la côte est, juste à côté de Sydney en ce moment.
D'accord, et vous y êtes depuis longtemps ?
Donc ça fait maintenant 2 ans que je me trouve en Australie, alors je ne suis pas resté que sur Sydney, j'ai fait maintenant tout le pays, hein. Donc voilà.
Et pourquoi là-bas ?
Alors je travaillais dans les ressources humaines en France et je voulais en fait m'améliorer en anglais de base.
Mmh.
Donc je suis parti sur l'Australie puisque bon il y a un cadre de vie qui est pas mal aussi hein, en termes de plage, en termes de climat, etc. Donc voilà, j'ai tout quitté pour venir rejoindre le pays des kangourous.
Et c'était plus sympa que d'aller à Londres par exemple. Là aussi vous auriez pu améliorer votre anglais. Exact.
J'aurais pu, c'est vrai, mais bon, la pluie ne m'a pas spécialement attiré.
Ouais.
Et puis voilà, là, ça faisait un très grand voyage, et puis ça me permettait aussi de me challenger, voilà, de partir seul comme ça à l'aventure. Donc,
et vous y avez travaillé, du coup ?
Ouais, alors oui, parce que la vie est assez chère en Australie, donc j'ai un petit peu travaillé partout. Donc j'ai fait de la restauration en tant que barman, en tant que serveur, alors que j'avais pas du tout d'expérience. Et puis j'ai travaillé également dans tout ce qui est industrie touristique, donc j'ai été instructeur de plongée, donc pareil, j'avais pas d'expérience avant, et puis voilà, c'est le pays de tous les possibles un petit peu, puisque voilà, tout est ouvert à tout le monde ici, donc on peut avoir de très belles expériences. Ouais,
mais c'est si simple que ça, pour un Français comme ça, de débarquer en Australie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'une nouvelle vie en Australie. Vous êtes toujours accueillis à bras ouverts.
Voilà, le peuple australien est très accueillant à ce niveau-là. Après, je dirais pas que c'est très simple non plus. Il faut quand même se donner les moyens. Il faut quand même avoir une certaine base en anglais aussi pour pouvoir se débrouiller. Mais voilà, il y a quand même beaucoup plus d'opportunités. Il y a très peu de chômage en Australie. Mais après, c'est comme tout. Voilà, il faut juste savoir se donner les moyens, persister et puis après, voilà, sortir de sa zone de confort.
Et vous faites quoi là en ce moment comme travail ?
Alors là, dernièrement, je travaillais, alors c'est complètement différent, c'est dans une ferme solaire. Donc il y a beaucoup de fermes solaires ici en Australie, puisqu'ils n'ont pas de centrale nucléaire ou quoi que ce soit. L'énergie principale, c'est le soleil. Donc ça consiste tout simplement à poser des centaines de milliers de panneaux solaires au milieu de la campagne pour pouvoir alimenter des villes telles que Sydney, etc. Donc c'est beaucoup plus pénible, ça vend un peu moins de rêves. En revanche, c'est très bien payé, il y a beaucoup de demandes sur ce travail, donc voilà, j'ai pas du tout regretté non plus de le faire. Ça fait 3 mois que je fais ça, donc voilà, le rythme est compliqué, le rythme de travail c'est très fatigant.
Pourquoi ?
Parce que les horaires simplement sont importants. On travaille entre 60 et 70 heures à la semaine. Donc on se lève le matin à 4h30 et puis on finit les journées à 17h30 en prenant le temps de transport, donc c'est assez long, mais voilà, la paye est vraiment conséquente, donc on crache pas dessus.
Ah bon, on peut en parler concrètement de la paye ?
Ouais, bien sûr. Alors le SMIC en Australie, il est environ de $28 de l'heure. Donc alors en euros, ça doit représenter quelque chose comme 17-18 euros.
Ouais. Donc c'est quand même plus important que chez nous.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et ici, en ferme solaire, concrètement, alors on est toujours payé à la semaine en Australie. Ça peut être à la semaine ou toutes les 2 semaines. Mmh. Mais concrètement, là, dernièrement, on gagnait $2,500 par semaine. Donc c'est vraiment conséquent.
En euros,
alors,
ça fait à peu près combien ?
En euros, ça fait un SMIC. Hein. Ça fait un SMIC par semaine.
Ça vaut le coup de se lever à 4h30. Hein.
Ouais.
C'est ça, exactement. Ouais. Ça motive aussi. Donc, j'ai jamais eu, bien sûr, ce genre de salaire. Faut pas non plus vendre du rêve.
Oui, bien sûr.
En général, on est au niveau de 1000 dollars à la semaine pour des travails comme la restauration, etc. Mais là, voilà, c'est très demandé. Et puis voilà, c'est parce que c'est vraiment bien payé.
Oui.
Et quel est votre objectif alors c'est de rester en Australie, de revenir en France, de partir ailleurs?
Alors non, ça va être de revenir en France. Là, je vais voyager un petit peu en Asie. Je l'ai déjà fait l'année dernière en Indonésie. Donc là, je vais partir aux Philippines prochainement. Mais voilà, j'avais l'opportunité de rester une troisième année, de renouveler mon visa encore. Mais voilà, étant donné que j'ai voyagé tout autour du pays, que mon anglais est vraiment vraiment bon maintenant, voilà, je pense que c'est l'heure pour moi de rentrer en France, de rentrer à la maison et voilà, de commencer à travailler et de trouver une situation plus stable, on va dire.
Oui. Je précise que vous avez 24 ans, Rémi, donc vous avez quand même une sacrée expérience.
Bah, je regrette pas du tout. Hein. C'est l'ami de mon beau-frère qui m'avait parlé à la base de cette expérience en Australie. Il l'avait fait il y a 10-15 ans de cela. Et pareil, j'avais eu des très très bons retours, donc voilà, c'est une prise de risque, mais au final, voilà, c'est des souvenirs plein la tête pour des années à suivre. Là.
Et alors, vous avez fait un choix musical très très australien, dites-nous.
Ouais, alors,
expliquez-nous ce choix.
Ouais, c'est ça. Parce que tout simplement, je viens du Loir-et-Cher, je viens de la ville de Blois.
Ouais.
Donc, étant donné que voilà, ça va être le retour au bercail pour moi, comme on dit, et ben voilà, c'était une petite dédicace pour ma ville natale.
Michel Delpech, évidemment.
Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Michel Delpech, le Loir-et-Cher, bah voilà, bientôt le retour au pays pour Rémi après 2 ans passés en Australie. Enfin, un autre voyage en Asie, vous avez dit. Hein.
Avant, oui, un petit peu.
Ouais, c'est ça, donc des petites vacances avant le retour définitif.
Ah, elle est pas belle la vie quand même.
Ouais, hein. Ouais. Et vous allez rester dans le Loir-et-Cher d'ailleurs, c'est où vous pouvez bouger en France?
Non, je pense bouger en France étant donné que je vais essayer maintenant de travailler à dimension internationale en utilisant l'anglais. Donc oui. C'est vrai que le Loir-et-Cher, à ce niveau-là, on est très territoriaux. Donc je vais me laisser une certaine mobilité géographique. Ouais.
Et donc dans les ressources humaines, c'est ça?
C'est ça, ouais. Je vais rester dans ce domaine. Après, si j'ai d'autres opportunités, je suis également ouvert. Mais voilà, étant donné que j'ai des études et de l'expérience à ce niveau-là, je vais prioriser les ressources humaines.
Ouais. Bon, ben, on vous souhaite plein de réussite.
Il est quelle heure chez vous, là, en Australie, Rémi?
Il va être 13h, tout simplement. Donc, c'est milieu de journée. Tout se passe bien, il fait beau. on est au début de l'hiver, mais il fait toujours 21 degrés. Donc ça va, c'est pas trop froid.
Et vous ne travaillez pas aujourd'hui, alors?
Non. Pas de travail aujourd'hui.
Eh bien, profitez-en. Merci de ce petit coup de fil, Rémi. Ouais, bonne continuation.
Merci beaucoup. À vous aussi, merci. Bonne
à bientôt. Et puis, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à vous nous envoyer un message sur le groupe Facebook de l'émission ou un mail rtl.fr.
RTL, vivre ensemble.
On écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins, 9h10.
Ah,
Alors les vacances d'été arrivent à grands pas, mais où partir en vacances? Eh bien, nous avons décidé de poser la question à un écrivain qui connaît bien la France. Bonjour Michel Houellebecq.
Chour.
Alors dites-nous Michel, comment avez-vous choisi votre lieu de vacances?
Vu que j'aime pas trop la fête, le soleil, l'insouciance,
oui.
J'ai tapé villes les plus déprimantes de France dans Google.
D'accord.
Et j'ai eu un premier coup de cœur pour Sarcelles.
Et pourquoi? Pourquoi Sarcelles?
C'est moche. Il n'y a rien à voir, on peut se faire dépouiller à tous les coins de rue. Bref, ça m'a semblé idéal. Mais j'ai trouvé encore mieux.
Oui, bon, ah. Content. Ah oui, et où donc?
Morlaix.
Ah.
C'est pas une injonction sexuelle. Hein. Morlaix, c'est le nom d'une ville en mieux. Bretagne réputée pour son fort taux de suicide. Les gens se jettent d'un viaduc. Je me suis dit que ça ferait une bonne occupation pour l'été. De les regarder s'écraser en buvant une bonne bière tiède.
Mais
j'ai trouvé encore plus déprimant.
Ah. Oui, oh là là, quel suspense. Alors, où donc?
Tulle.
Ah.
C'est quand même la ville de François Hollande, donc a priori, on est à zéro sur l'échelle de la fête et du glamour. J'ai failli réserver, mais ce n'est pas mon choix final.
Alors Michel, quel est votre choix final, s'il vous plaît?
J'ai trouvé une ville avec de l'insécurité, des déchets sur les trottoirs, des trous dans les chaussées, des marteaux piqueurs partout, des rats qui vous mordent les mollets, des trottinettes qui vous foncent dessus. Bref, cet été, je reste à Paris.
Laurent Gérard, que vous retrouvez tout à l'heure avant 9h sur RTL. Tiens, on embrasse Aude Emmanuel qui a reçu ses cadeaux RTL. Elle fêtait son anniversaire il y a quelques jours. Elle a reçu son mug et sa montre RTL.
Bah, j'en profite aussi pour dire un grand merci de la part de toute l'équipe RTL Petit Matin. Paola de Venise qui nous a envoyé des gâteaux. Ils sont arrivés,
colis bien reçu, merci, on vous embrasse.
Merci Paola.
1986, Étienne Dao, épaule tatou.
C'était bien.
Tout ce qui est tatoué est à mouiller.
Oui, voilà, il fallait la faire celle-ci.
Non, mais il fallait elle bien la faire. Voilà. Elle nous manquait absolument, Marina. On aura un temps très très agité oui. aujourd'hui.
Mais franchement, là, c'est.
Autant le dire tout de suite.
C'est une journée bien agitée parce qu'on a une perturbation qui est en train de traverser le pays, qui se trouve là en ce moment des Pyrénées au Massif central en remontant vers le nord-est. Mais à l'arrière, elle laisse quand même un ciel avec un ciel de traîne assez agité, donc avec quand même des averses. Et puis, il y en a une deuxième qui va arriver là en cours de matinée par la Bretagne. C'est déjà le cas, il y a des averses en Bretagne. Et cette perturbation est pluvieuse et orageuse. Donc, franchement, de la pluie, des orages. Du vent aussi un petit peu, et notamment en Méditerranée, et puis de la neige en montagne au-dessus de 2000 mètres pour les Pyrénées et puis les Alpes. Et tout le monde sera concerné à un moment ou l'autre donné de la journée par ces averses. Il y a juste la Corse où vous allez garder un temps sec. Le ciel va se voiler, mais ce ne sera pas désagréable comme impression parce que vous aurez des températures douces.
Et côté température, il fera 19 degrés à Paris.
Exactement, 19 à Paris, à Perpignan et à Nice, 18 à Grenoble et à Agen. Ça baisse bien dans l'est et le sud-ouest par rapport à hier. 17 à Toulouse, 17 à Lille et à Reims, 16 au Mans, à Mulhouse et à La Rochelle, 16 aussi à Lyon et à Nancy, 13 degrés à Aurillac et puis un petit peu plus en Méditerranée, vous aurez entre 20 et 25 degrés, 25 ce sera pour